R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma. Bonsoir à tous. Alors, je dois avouer, c'est à ma grande surprise, puisque les textes s'organisent un peu de manière organique et anthropique. À ma grande surprise, donc, le texte de ce soir a l'un de ses protagonistes, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et ce n'est pas forcément quelqu'un auquel j'aurais spontanément pensé. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme ça, me vient à l'esprit. Mais voilà, il a trouvé sa place. Alors, je dois introduire un tout petit peu ce que je vais vous proposer ce soir. En introduction, je dois dire que il y a à peu près... il y a à peu près un an, un peu plus qu'un an, j'ai décidé d'essayer de trouver du temps dans mon emploi du temps pour faire un travail d'écriture. Et ce travail d'écriture, il s'est centré, quoi. L'idée du travail d'écriture, c'était de retourner dans des endroits où j'ai grandi, en banlieue parisienne, en banlieue sud précisément, en grande banlieue sud. Et j'ai saisi l'occasion de pouvoir faire une résidence d'écriture dans le quartier qui s'appelle la Grande Borne, dans la ville de Grigny, qui n'est pas du tout une ville d'où je viens. En fait, moi, je viens d'une ville qui est à côté, qui s'appelle Évry. Et dans la géographie, si vous voulez, de cette banlieue sud, il y a un peu trois ensembles qu'on va traverser partiellement ce soir, parce que c'est un travail qui est encore en cours. Et j'expliquerai pourquoi. Mais disons qu'il y a trois ensembles. Il y a la Grande Borne à Grigny, les Pyramides à Évry et les Tarterets à Corbeil, qui chacun, en fait, sont dans une forme de compétition pour être le pire endroit pour vivre en Essonne. Et selon les périodes, certains prennent vraiment un avantage assez décisif. Hamidi Coulibaly a permis à la Grande Borne de retrouver sa première place, alors que les Tarterets avaient quand même marqué des points et que les Pyramides, qui est l'endroit d'où je viens, avaient quand même produit certaines des bandes un peu notables des années 90. L'avantage, et là je vais dire parce que moi je suis d'Évry, l'avantage d'Évry, donc, c'est que donc, les Pyramides sont une grande cité cœur de ville, c'est une ville nouvelle. C'est des villes nouvelles très différentes. On va dire qu'en gros, les Tarterets, c'est une architecture de tours. Un peu l'image classique qu'on peut avoir de la banlieue, c'est-à-dire plutôt ce qu'on appelle des chemins de grue. Et puis, les deux autres cités sont un peu comme une espèce de dialogue ou de correction, en fait, on pourrait dire, l'une de l'autre. Évry, c'est plutôt une ville nouvelle en dalles, comme Créteil, par exemple. Et donc ça a été une utopie des années 60, de construire donc des villes où une partie était piétonnisée et on n'était pas du tout au niveau de la route, c'est-à-dire qu'on circulait entièrement dans la ville sur un niveau, comme ça, comme un plateau. Et je parlais beaucoup ce soir de différents plateaux, des plateaux temporels et géographiques. Et sur ce plateau, en fait, vivaient de manière harmonieuse et douce et conviviale des gens qui, en tout cas, lorsque l'architecture a été construite, n'avaient pas du tout l'idée de jeter des scooters sur la police en contrebas sur la route. C'est plus tard à l'usage qu'est apparue la possibilité de le faire. Donc ça, c'était plutôt la ville nouvelle d'Évry et son cœur de ville avec les Pyramides. Et l'autre endroit extrêmement déterminant, qui a une consonance grecque et qui est, de toute façon, ce soir, je ferai beaucoup d'aller-retour dans le temps, qui s'appelle l'Agora, qui est le premier grand centre commercial de banlieue sud et qui donc, comme place de ville, est en fait essentiellement un lieu dédié à la consommation et à la conduite de caddie. L'avantage théâtral comme réel et l'avantage qu'avait pris, je trouve, définitivement la ville d'Évry, c'est que devant l'Agora, il y a une gigantesque dalle avec trois accès qui décide comme une espèce de forme de rose des vents pour des rendez-vous de bandes. Donc lorsqu'on habite à Évry, on arrive par un accès, les gens de Corbeil arrivent plutôt par un autre accès à cause de la gare, et les gens de Grigny par le troisième accès. Donc il y a une espèce de mise en scène, et on peut quand même dire que c'est quand même principalement à Évry que les gens habitant ces quartiers se sont affrontés sur la dalle devant l'Agora. Donc ça, c'est une chose qui est un peu, voilà, qui était importante. Pour moi, c'était quand même pas très intéressant de faire une résidence à Évry, parce que c'est quand même une ville que je connais assez bien. Et donc, pour vous donner quelques repères, parce que c'est des choses que peut-être on ne sait pas, l'un des maires marquants de la ville d'Évry, c'est Manuel Valls. Donc, on a pu donc découvrir dans la ville d'Évry ce que pouvait être le sarkozisme avant Sarkozy, donc une espèce de moment pré-sarkoziste, puisque c'est la ville, une des villes qui a inauguré en premier la vidéosurveillance généralisée. Donc ça a été aussi une ville avec une vraie dimension expérimentale. Et c'était aussi, bien entendu, une ville qui répondait à une forme d'utopie dans sa construction. La Grande Borne est un peu une espèce de contre-utopie. Quand Hayo crée la Grande Borne, on est un peu plus tard, c'est une cité plus tardive, des années 70, et là on est sur un parti pris qui est extrêmement passionnant, qui est de dire on ne va plus construire ni des tours, ni des bars, ni des plateaux, on va construire assez bas, dans des formes assez rondes. Hayo imagine un geste assez artistique, c'est-à-dire des bâtiments qui serpentent, et qui ne sont pas du tout rectilignes, et qui s'enchassent les uns dans les autres, dans des labyrinthes. La Grande Borne, donc, aussi est un lieu qui est conçu dans une idée d'harmonie et qui va vraiment attirer énormément de gens à ce moment-là, puisque c'est un habitat à loyer modéré, mais qui est construite avec un geste artistique intéressant. Les façades sont composées en mosaïque et le projet d'Ayo au départ est de réaliser en pâte de verre les murs qui serpentent et qui s'enchassent, deux grands axes extérieurs, l'autoroute A6 qui coupe la ville de Grigny en deux, d'un côté la ville de Grigny, de l'autre côté la Grande Borne. Une autre route, une nationale qui longe, au milieu, pas de route. C'est-à-dire que quand on entre dans la Grande Borne, il n'y a pas de route. Ce qui est une assez belle utopie, en tout cas à l'époque où le projet est construit, et encore pour dire que c'est un endroit qui va vraiment correspondre à une volonté de changer les images des constructions de banlieue, qu'elles soient vraiment expérimentales, vraiment pensées, avec des systèmes aussi cœur de bâtiment où on se rencontre, on fait des barbecues, etc. Ce qui était assez important pour moi, je l'ai vécu du côté d'Évry, j'ai décidé de faire une résidence là-bas parce que je savais pertinemment qu'il y avait eu une espèce d'âge d'or et quelque chose avait existé de très positif à ces endroits-là. Et pour dire le sujet de ma résidence, c'était d'interroger tout un ensemble de gens pour qu'ils me racontent l'endroit où ils pensaient qu'on était passé du paradis à autre chose et parfois du paradis à l'enfer. Mais qu'on ait un récit en fait, du moment où c'était un endroit agréable. Et les gens racontent très facilement la période paradisiaque. Donc c'est aussi quelque chose qui peut-être bouge un peu certaines idées reçues, parce qu'effectivement, les gens, quand ils parlent de la Grande Borne, même aussi d'Évry, mais la Grande Borne, c'est très fort pour ça, ils sont venus volontairement là, avec une vraie mixité, et avec un moment qui est vraiment paradisiaque. Et quand on voit l'espace, on comprend que ça puisse être paradisiaque, puisqu'en fait, une fois qu'on est dans la cité, c'est comme un espèce de cocon verdoyant. Il y a des immenses pelouses entre tous les bâtiments, et on est à l'intérieur de quelque chose qui est très protégé. Et que la question de l'isolement et de la coupure, et notamment la fracture que représente l'autoroute A6, n'est pas forcément vécue comme ça au départ, mais plutôt est vécue comme quelque chose qui est un peu protecteur. Ça, c'est un peu l'histoire. Donc moi, j'ai décidé de travailler pendant un certain temps. En fait, au départ, c'était une année, ça va être plusieurs années, a priori, à la Grande Borne. Pas exactement, en fait, pour faire une histoire de la Grande Borne. Mais plutôt pour essayer de travailler un voyage dans le temps et essayer de sensiblement se rappeler pour revisiter des espaces et puis voir ce que les espaces font au corps et voir ce que ça fait raconter. Donc je suis plutôt retourné à cet endroit-là pour essayer de me rappeler de certaines choses. Si on connaît bien ce coin-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les lignes de transport qui traversent, vous ne connaissez qu'un segment de la ligne selon où vous habitez. Par exemple, moi, j'étais jamais descendu à la gare de Corbeil avant d'avoir 40 ans et d'aller visiter mon frère là-bas. C'est une gare dans laquelle je me couchais dans le RER pour que les gens qui attendent sur le quai et qui regardent qui est dans le RER ne me voient pas, au même titre que les gens des Tarterets se baissaient à Héricourt-Couronne ou au Bras de Fer pour pas qu'on rentre dans la rame et qu'on les chope. C'est un petit résumé. Donc la ligne 402, j'ai découvert des arrêts où je ne m'étais jamais arrêté, notamment tous les arrêts de la Grande Borne, où j'avais l'habitude en général de me baisser jusqu'aux arrêts où on était à Évry. Et donc c'était aussi revenir dans ce corps-là, essayer de revisiter un espace non seulement comme espace fixe, mais comme espace aussi ressenti du corps. Et donc c'est vrai par exemple qu'appuyer sur le bouton et descendre à l'arrêt qui donne cœur de la Grande Borne, ça m'a fait une émotion assez particulière. Et donc c'était aussi ce type d'émotion que je recherchais. Mais le travail que j'ai fait et dont je vais commencer à vous parler ce soir, ça peut paraître un peu paradoxal, mais je crois qu'il y a un lien, m'a ramené bien avant. Et donc l'idée de ce travail, c'est de raconter en fait une histoire qui a à voir avec une grande et une petite histoire, mais qui remet aussi peut-être la banlieue dans cette grande et petite histoire, qui commence à la fin des années 70 et qui va jusqu'à l'année 2015. Là, ce soir, je vais vous présenter un peu les matériaux qui existent déjà et qui sont autour des années 81 à 88. Alors, ce n'est pas du tout complet, mais il y a des endroits où c'est plus complet, parce que je travaille aussi en faisant des sauts dans le temps. Et il y a des années qui sont plus évidentes et qui sont donc un peu plus difficiles, et des années qui sont un peu moins évidentes et dans lesquelles finalement on trouve plus de choses. Voilà. Donc ça, c'est un peu une forme d'avertissement avant de commencer. Peut-être que je vais mettre un générique pour commencer. Je m'étais dit, c'est bien d'avoir une espèce de générique parce que là, je dois commencer le... Alors bon, c'est pas mal de faire ça. On va faire un générique. Donc c'est l'année 1981. Alors ça, c'est le générique entier de la séquence 81-88 plutôt, mais voilà. En tout cas, c'est pas sûr, mais moi c'est un peu. J'aimerais bien aller vers quelque chose comme ça. On peut dire comme ça qu'on tente quelque chose. J'arrive, Esther, c'est juste que je le retrouve.
Tiens, NASA numéro 1. Roger, contact BDSI. Ok, contact Superclock Moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, deux points intérieurs et extérieurs allumés. Amorce du piqué. Roger, extraction. Danger 3, ramenez point 0. Latéral de votre conduite, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture.
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Bon, ça pourrait être un générique, mais bon, c'est pas forcément ce générique-là. Hein. Mais voilà, ça c'est le générique de 1981. 10 mai 1981. Cette partie est sous-titrée « Ode au cyborg mélancolique ». L'institutrice nous demande de dessiner des caricatures d'hommes politiques. Je dessine Valéry Giscard d'Estaing avec une grosse tête d'œuf. L'œuf est cassé sur sa face supérieure, ce qui rend apparent tout un système mécanique et électronique. Giscard est un cyborg. Ce n'est que 10 ans plus tard que Donna Haraway publiera Cyborg Manifesto, Manifeste Cyborg, ouvrage clé du cyberféminisme. Mais à cette époque, je ne connais pas encore ce livre. Quand je dessine mon président robot, il est plus sûrement l'hybridation de Calimero, poussin et premier héros noir et mélancolique de la télévision, et de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards de francs ou 6 millions de dollars américains, c'est au choix. L'homme qui valait 3 milliards de francs ou 6 millions de dollars américains est une série télévisée américaine de science-fiction et de fantastique en 99 épisodes de 50 minutes et 6 téléfilms. Ça a été créé par Kenneth Johnson d'après le roman Cyborg de Martin Kaydin. Il a été diffusé du 16 janvier 1974 au 6 mars sur le réseau ABC et en France, il a été diffusé du 11 janvier 1975 à 1986 sur Antenne 2. Alors, le colonel Steve Austin fait partie des astronautes qui ont marché sur la Lune. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas forcément au départ. Et plusieurs mois après, revenu sur la Terre, il devient donc pilote d'essai pour la NASA. Et au moment d'un atterrissage un peu difficile qui compose en fait le générique du film, lors d'un test donc de vol sur ce nouveau jet, il ne peut éviter un crash de son appareil. Il est grièvement blessé. Certaines parties de son corps, le bras droit, les jambes et l'œil gauche sont remplacées par des prothèses bio-ioniques à 6 millions de dollars, soit 30 millions de francs à l'époque ou 3 milliards d'anciens francs, même si cette monnaie avait disparu 13 ans plus tôt, ce qui rend assez étrange le titre. Ces prothèses améliorent considérablement ses performances. Il peut dès lors courir bien plus vite, voire bien plus loin, soulever des charges bien plus lourdes. Il devient alors un agent secret pour l'OSI, c'est une agence gouvernementale d'espionnage, sous la direction d'un certain Oscar Goldman, pour qui il accomplit des missions très dangereuses. Alors, la série ne donne aucune précision sur les liens entre le dit Oscar Goldman et Marcus Goldman, fondateur de Goldman & Sachs, la puissante banque d'investissement américaine qui ouvre son premier bureau à New York en 1869 et qui va traverser plusieurs crises financières, dont la crise de 1929, mais aussi celle dite des subprimes dans les années 2000. Alors, si le lien n'est pas avéré, il ne reste pas faux que le devenir bio-ionique de Steve Austin commence sur des airs de reproche, puisque le prix des prothèses qui font de lui en quelque sorte un surhomme lui est inlassablement rappelé, générique après générique, tant et si bien que son patronyme, Austin, capitale du Texas, au lieu de l'informatique et de l'industrie biotechnologique, Austin donc, disparaît bientôt littéralement à la faveur d'un prix qui devra, à force de courses, de sauts, de barres tordues à main nue et de neutralisation des ultimes engagés de la guerre froide, qui devra rembourser à l'État américain, dirigé depuis peu par un certain Ronald Reagan, lui-même acteur. Donc Steve Austin est un travailleur américain qui ne peut pas payer sa dette. J'aurais pu m'attarder, mais ce n'est pas notre sujet ce soir, sur les véritables ennemis intimes d'Austin en ce début des années Reagan, le couple de milliardaires américains Jonathan et Jennifer Hart, qui décident subitement, eux, de chasser les criminels, non pas pour payer leurs dettes, mais pour l'amour du risque, c'est-à-dire pour dynamiser quelque peu leur libido en panne. Je cite « l'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer ». « 19 mai 1981. Mon dessin de Giscard d'Estaing plaît beaucoup à l'institutrice. Elle le montre fièrement à la classe. Mais quand je lui dis que j'en ai plusieurs autres, par exemple j'ai dessiné Michel Rocard et François Mitterrand, elle feint de ne pas m'entendre et continue de passer dans les rangs en se trémoussant dans une espèce de douce euphorie. Quand elle revient enfin vers moi, je refuse de reprendre le dessin. » Et décide, tout affaire cessante, de ne plus jamais lui adresser la parole jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous sommes en mai, c'est tout à fait jouable. L'après-midi, je dessine deux Golgothes et un Enterrac, auxquels je donne la mission de lui clouer le bec. Vous allez me dire, mais quelle différence entre un Golgothe et un Enterrac ? Le Golgothe est une machine autonome, l'Enterrac est piloté. C'est ça la réponse. L'Enterrac est donc une parfaite continuité de l'industrie aéronautique de guerre. C'est un véhicule de guerre. Le Golgothe, lui, contient d'évidence quelque chose de plus mélancolique. C'est un être hybride, une forme d'animal robotique, féroce. L'Entérac fait encore appel à des commandes humanoïdes, le Golgoth, comme son nom l'indique, qui vient de Golgotha, du nom de la colline où fut crucifié Jésus-Christ, est au-dessus de la vision catholique du monde. C'est une machine queer, indépendante, qui en finit avec toutes les conceptions anciennes de la famille et du genre. « 18 mai 1981. Je comprends du même coup, après mon dessin, que mon père n'est en fait pas pilote d'Entérac, ni de Mirage 2000, mais qu'il est contremaître dans une usine de sous-traitance qui fabrique des pièces de moteurs supersoniques, la Snecma à Corbeil-Essonne, prestataire de l'entreprise Dassault. » 18 mai 1981. « Sous mon dessin du président Giscard, au crâne d'œuf ouvert aux quatre vents, j'ai écrit « Messieurs, nous pouvons le reconstruire », m'inspirant du générique de l'histoire de ce héros américain devenu contre ce gré le premier robot endetté de l'histoire. Mais le cas de mon président cybernétique n'est pas plus reluisant. On allait bientôt anonymement coller sur ses affiches électorales des diamants à la place de ses yeux. Ça n'allait pas l'aider à se reconstruire. Même si ça lui donnait un air assez intriguant, une vision de diamant qui traverserait peut-être les sols les plus épais, pour trouver, qui sait, d'étonnantes richesses, comme avaient promis de le faire les avions renifleurs. Petite aparté et précision sur les avions renifleurs. L'affaire des avions renifleurs est une affaire politico-judiciaire d'escroquerie au détriment d'Elf Aquitaine, qui s'est déroulée de 1975 à 1979, quand elle était encore une entreprise publique française. Elle a débouché sur un scandale politico-financier en 1983. C'est l'histoire du financement très coûteux d'un appareil fantaisiste censé détecter des gisements de pétrole. Un dispositif était embarqué à bord de l'avion. Le simple survol d'une zone aurait suffi à localiser à coup sûr les gisements. Outre l'aspect cocasse de cette mystification et le montant des sommes engagées, c'est le fait que le nom de Valéry Giscard d'Estaing soit associé à cette affaire qui lui a donné un tel retentissement. « 21 mai 1981, soir d'élection. Mon père est sombre dans son fauteuil. 22 mai 1981. L'institutrice propose que nous fassions un grand goûter et une fête avec des jeux toute la journée. Elle a accroché mon dessin au tableau avec des aimants. J'ai envie qu'elle me rende mon dessin. Je me tiens au principe de ne pas lui adresser la parole. Et je me faufile entre deux cours après la cantine pour le décrocher et le ranger. 17 septembre 1981, le jour de l'anniversaire de mes 10 ans, je vois à la télévision le visage silencieux et sévère de l'Ayatollah Khomeini. Il remplit l'écran, menaçant. Il est la seule chose à la télévision qui ne bouge pas. Il transforme la télévision en un vulgaire cadre photo. Il ne dit pas un mot. C'est la première fois de ma vie que je vois une performance. Je suis convaincu pourtant que c'est lui le méchant, car on m'avait dit 2 ans auparavant qu'il avait chassé du pouvoir. Il avait pris le pouvoir au chat. Et moi, je croyais que le chat était un gros matou. L'idée qu'un animal puisse diriger un pays me paraissait étonnante et à la fois tout à fait souhaitable. « 1982. Don't push me, cause I'm close to the hedge. » I'm trying not to lose my head. Don't push me, cause I'm close to the hedge. I'm trying not to lose my head. Don't push me, cause I'm close to the hedge. I'm trying not to lose my head. Don't push me, cause I'm close to the hedge. I'm trying not to lose my head. 1982. Le temps est arrêté, le jardin est transporté à Séville, vous flottez dans le corps de Marius Trésor, vous êtes un trésor floqué d'un coq doré qui scintille dans la nuit, et vous êtes couvert de couleurs baveuses, de vidéos, qui vous traînent comme un fantôme avec un texte flou. 15 septembre 1982, sorti au cinéma de Blade Runner. On a changé de président, mais les cyborgs sont partout maintenant. L'année 83 est manquante. 1984. 27 juin 1984, le ballon passe sous le ventre d'Arconada, la France est championne d'Europe. Octobre 1984, vous ne marchez plus le long des berges de la Seine. Vous ne marchez plus près des fleuves. Vous ne marchez plus près des lacs artificiels, des ruisseaux, tout ce qui compose la beauté de la France. Vous ne marchez plus à côté quand on vous croise un chien. Vous vous demandez pourquoi les chiens, eux, osent encore marcher près des fleuves, sans penser au petit Grégory. Le 16 octobre 1984, vers 17h, Grégory Villemain, né le 24 août 1980, disparaît alors qu'il joue sur un tas de sable dans le jardin devant la maison de ses parents. Christine, ouvrière à la manufacture de confection vosgienne, et Jean-Marie Villemain, contremaître à l'usine de pièces de voiture Autocoussin, à L'Épanche-sur-Vologne, dans les Vosges. Sa mère était alors en train de repasser et part à sa recherche en vain. Elle signale sa disparition aux gendarmes à 17h50. Vers 21h15, le corps de l'enfant mort noyé est découvert tout habillé, plaqué contre un barrage dans la Vologne, à Docelle, à 7 km en aval de L'Épanche-sur-Vologne. Son corps ne présente pas de traces de violence, mais une cordelette qui lui lie les jambes et mains croisées sur son ventre. Philippe G. Chou et Patrick Claes, pigiste et photographe au quotidien La Liberté de l'Est, assistent au repêchage du corps de Grégory par les pompiers. La photo, un pompier encordé tenant dans ses bras l'enfant vêtu d'un anorak bleu, d'un pantalon velours vert foncé et d'un bonnet de laine rayé blanc et bleu rabattu sur le visage de Patrick Claes, est publié dans la presse le lendemain et va traumatiser la France entière. Les recherches ciblées dans la Vologne s'expliquent par un mystérieux personnage surnommé le Corbeau, qui fait part du crime par un appel téléphonique donné à 17h32 à l'un des frères de Jean-Marie Villemain, Michel, précisant que l'enfant avait été jeté dans la rivière. Le lendemain, le 17 octobre, une lettre anonyme adressée à Jean-Marie Villemain revendique le crime. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » La lettre a été déposée à L'Épanche-sur-Vologne le jour du meurtre avant la levée de 17h15, d'après l'oblitération. Ce corbeau à voix rauque harcelait le couple depuis environ 4 ans et la mort de Grégory est une exécution des menaces proférées au cours de ces 4 années. Bernard Laroche, né le 23 mars 1957, cousin germain de Jean-Marie Villemain, est dénoncé par Muriel Boll, sa belle-sœur alors âgée de 15 ans. Ses graves déclarations devant les gendarmes sont réitérées en audition devant le juge d'instruction d'Épinal, Jean-Michel Lambert, le 5 novembre 1984, qui inculpe Bernard Laroche, le jour même, les journaux faisant la une avec l'assassin Laroche. Le lendemain, la famille de Muriel lui demande de passer chez elle. Les gendarmes, considérant que la jeune fille fragile et vite dépassée par les événements, a pu subir des pressions pour changer sa version des faits. Et la jeune fille se rétracte devant les micros et caméras, clamant l'innocence du beau-père. Mais le juge Lambert a d'autres éléments à charge contre Bernard Laroche. La première étude graphologique qui le désignait comme le corbeau, un foulage, LB, au bas de la lettre de revendication du meurtre par le corbeau qui correspond exactement à la signature de Bernard Laroche. Ce foulage ayant été égaré par les enquêteurs, il ne pourra pas être exploité durant plusieurs années avant qu'une copie du rapport établi comportant des photos soit retrouvée. De surcroît, cette pièce maîtresse du dossier a été abîmée lors des recherches d'empreintes. Une poudre noire y a été déversée dans le but de rechercher des empreintes digitales, rendant impossible ultérieurement la recherche des traces d'ADN notamment. Sans le témoignage de la jeune Muriel, le dossier est bien maigre sur le plan judiciaire, comme le pointe l'avocat de Laroche, Gérard Valzer. Même si pour la gendarmerie, la jalousie de Bernard Laroche pour la réussite sociale et la famille de son cousin forme un mobile valable. Le 4 février 1985, le juge contre l'avis du ministère public libère Bernard Laroche qui reprend son travail. Ce jour-là, devant les journalistes, Jean-Marie Villemain annonce son intention de le tuer à la sortie de son travail. Marie-Ange Laroche demande alors pour son mari la protection de la gendarmerie qui la lui refuse. Mais la gendarmerie n'était plus chargée du dossier à ce moment-là. Le 29 mars 1985, Bernard Laroche est abattu d'un coup de fusil par Jean-Marie Villemain, comme celui-ci l'avait annoncé, car il lui imputait l'assassinat de son fils. Il repose au cimetière de Jussarupt. Marie-Ange Laroche a ensuite obtenu la condamnation de l'État pour ne pas avoir empêché la mort de son mari. Parallèlement, une ampoule et une seringue d'insuline sont retrouvées le 9 novembre 1984 près du local des pompiers où le corps de Grégory aurait pu être jeté dans la Vologne, ce lieu étant désigné par Muriel Boyle comme étant l'endroit où Bernard Laroche serait descendu de la voiture avec Grégory. Ces éléments matériels peuvent suggérer l'utilisation de ce produit pour provoquer sur Grégory un coma hypoglycémique avant de le jeter dans la rivière. La rumeur dans la région laisse entendre que le corbeau et meurtrier pourrait bien être la mère de Grégory, qui aurait été vue à la poste le jour du drame par les témoignages concordants de trois collègues de travail. Le 5 juillet 1985, le juge Lambert inculpe Christine Villemain d'assassinat et la place sous mandat de dépôt. Les éléments à charge sont une nouvelle étude graphologique, la désignant comme le corbeau, ainsi que des cordelettes identiques à celles ayant ficelé Grégory, retrouvées dans la cave du domicile familial. 11 jours plus tard, la chambre d'accusation de Nancy, sur instruction du procureur, relevant d'insuffisance des motifs de mise en détention provisoire, prononce son élargissement et sa remise en liberté provisoire. Mais elle confirme dans le même temps l'ordonnance de mise en accusation qui sera annulée ensuite par la Cour de cassation et la place sous contrôle judiciaire. Son cas divise radicalement les acteurs de l'affaire entre ceux qui sont persuadés de son innocence et ceux qui la considèrent comme coupable. De nombreuses rumeurs infondées et relayées par des journalistes avides de sensationnels la font meurtrière son enfant non désiré, complice de Bernard Laroche, voire sa maîtresse afin de lui trouver un mobile. Elle aurait découvert son enfant noyé dans sa baignoire et monté ce subterfuge invraisemblable de la noyade dans la Vologne car elle se serait retrouvée en situation compromettante avec son amant. Mais le tel scénario, qualifié de roman par l'enquêteur Étienne Sesma, ne sont étayés par aucune preuve. L'enquête fera l'objet de nombreux dérapages, violations du secret de l'instruction et de la vie privée, parti pris de la presse, manque de précaution des enquêteurs dans la collecte des indices, indécision des magistrats, rivalité exacerbée de la gendarmerie et du SRPJ, inexpérience des juges d'instruction, autopsie trop légère pour rendre le corps de l'enfant le moins abîmé possible par ses parents. Denis Robert, envoyé de Libération à l'époque, considère avec le recul l'affaire comme ce qu'il y a de pire dans tous les dysfonctionnements de l'appareil médiatico-judiciaire. Nous sommes au printemps 1985. Essonne. Printemps 85, le corps est une carte. Vous êtes un jeune homme roux et pâle qui tourne seul sur la piste. Dernier danseur squelettique au bout du dernier morceau saturé et moite, de l'ultime souffle, de la toute dernière énergie, avant la nuit, avant des kilomètres de nuit. La blancheur de votre peau, vos muscles saillants, votre corps mince mais musclé, où s'impriment les taches lumineuses de la boule à facettes. Comme un corps d'alien, ou comme un vaisseau spatial, vous pensez que vous êtes votre propre entéraque. Vous êtes le pilote de vous-même et l'entéraque en même temps de vous-même. Entéraque de soi, vous pensez. Transe de tous les systèmes. Et votre voix est humaine et synthétique à la fois. Une voix qui réclame de la soul, qui hurle de la soul. Dernière vibration humaine, dernier tour de piste qui déplace des masses d'air. Un champ magnétique est installé à la hâte. Tout le monde est massé dans les coins, dans la pénombre, et vous seul tournez comme un animal fou et pâle. Et puis vous tendez le doigt vers une bande de skinheads qui n'ont pas bougé depuis le début. Et quand votre corps s'effondre enfin, à bout de souffle. C'est le signal. C'est l'heure. La bagarre peut commencer. On dira, c'est le guet-apens des skinheads à la salle des fêtes de Villabé. Puis c'est la nuit. Tout est calme. Tout est redevenu calme. Vous marchez pendant des kilomètres au bord d'une route nationale. Il n'y a plus de temps. Vous êtes à présent dans votre corps. Et tout le poids de tous les organes vous descend dans les pieds. Vous ne pensez plus en tant qu'antéracte de vous-même. Vous êtes démuni. Vous marchez avec une seule chaussure. L'autre Doc Martens s'est perdu quelque part dans le champ magnétique de la salle des fêtes de Villabé. Vous marchez péniblement. Il est tard. Plus aucun système du vaisseau n'est accessible. Vous dormez. Mai 1985. Les mêmes skinheads vous attendent à la sortie d'une fête à Saint-Germain-les-Corbeilles avec des battes de baseball. Juin 1985. Vous revenez de la foire de Corbeil. Passez le pont sur la Seine. Vous ne pouvez plus passer sur un pont aujourd'hui. Ce n'est plus possible de passer sur un pont sans penser au petit Grégory. Et de l'autre côté du pont, il y a la bande de Boris. Vous reconnaissez le petit barbu de la fête de Villabé qui est revenu dans son corps, tout petit, qui a fini d'être une machine à remonter le temps, qui a fini de scratcher le temps, qui a fini de répéter le temps, de plier l'espace-temps avec des platines, qui a fini de réclamer de la sole, qui a filmé, qui a fini de changer le monde juste en tournant. Il ne tourne plus, qui n'est plus du tout en antéracte de lui-même, qui est tout à fait là. On est des Black Panthers, mec. Black Panthers, tu sais ce que ça veut dire, mec ? Black Panthers, tu sais, mec, ce que ça veut dire, mec ? Black Panthers ? Ouais. Ouais, quoi ? Ouais, tu sais ce que ça veut dire, Black Panthers, mec ? Ou tu sais que nous, on est des Black Panthers, mec ? Ouais, je sais ce que ça veut dire et je sais que vous êtes des Black Panthers, mais aucun de vous n'est noir. C'est quand même un peu chiant, non ? Quoi ? Tu dis quoi ? Tu dis quoi ? On est noir, bien sûr qu'on est noir. On est noir, t'es con, on est noir. On est noir à l'intérieur. La discussion ne dure pas. Vous marchez de nouveau dans la nuit, le long du national, une chaussure en moins, laissée dans un autre espace-temps. Coup de tige filetée, douleur au coude, pas de fracture, lèvres largement ouvertes par le contact d'une tête et de vos propres dents. Vous marchez en vous touchant régulièrement le visage pour vérifier que ça ne gonfle pas. Sous l'effet de la lune, peut-être un visage qui aurait une forme de marée qui se gonflerait et se dégonflerait. Vous pensez à ça. Vous dites « c'est la nuit, aucune flaque d'essence ». Ne vous offre de miroir, vous rentrez chez vous. Devant la porte, la mère. Oh ! C'est quoi ça ? Quoi ? Ça ? Quoi ? Ça ? Ça ? Ça ? Ça ? Quoi ? Ça ? Ta bouche ? Quoi ? Ta bouche ? Quoi ? T'es défiguré là ? Quoi ? T'es défiguré là ? Non ? Non ? T'es défiguré là ? On va appeler la police ? Non ? Pas la police. Allonge-toi. Non ? T'es défiguré là, non ? Non, non, ça ira mieux. Ça ira donc. Non, demain. Quand ? Demain. Demain. Non, non. Demain, ce sera pire. Ça va gonfler. Ça va gonfler pendant la nuit, c'est l'effet de la lune. Allonge-toi. Non, dors. Oui, d'accord. Ok, ok, ok. Je dors, je dors. C'est bon, c'est bon. Vous vous regardez dans la glace. Il a vu ? Quoi ? Quoi ? Il a vu ? Ça ? Quoi ? Ça ? Il a vu ? Qui ? Qui ? Qui ? Il a vu ? Non, il dort. Ah, il se lève. forte odeur de mousse à raser. Puis le père, derrière l'odeur. C'est quoi ça? Quoi? Ça? C'est quoi ça? Ça? Ça c'est quoi? Le pont de Corbeil? Il s'habille. On y va. Où? 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 Faut aller à l'hôpital là, non? Mange de la glace plutôt. Ça sert à rien. Faut recoudre, non? Quelque chose de froid. Mange un truc glacial. Ça bloque l'effet de la lune. Ça va aller, non? Ça va aller? Ça va aller, non? Ça va aller, non? On y va, là. On y va. On y va. Mais où? 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 Pas de médecin? Pas de médecin ici? Pas de tata dans la famille? Pas de tata dans la famille? Où? Ici? Où? Ici? Dans la famille? Pas de tata dans la famille? On y va. On y va. Où? 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 On y va. Où? Où? Pas de tata dans la famille? Non, mais quoi? Où? Non, non, ça sert à rien. Ils ne sont plus là. Où? Où? Ils sont où alors? Je sais pas. Mon frère Philippe se lève. C'est quoi, là? Quoi? Ça? Quoi? Ta gueule? Elle est toute gonflée? C'est quoi? La foire de Corbeil? C'est quoi? Boris, c'est le type roux. C'est quoi? Le type torse nu. C'est quoi? À Villabé? Ouais. On y va. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Si, si, on y va. On y va. Si, si, on y va. Non, non, ça va aller, ça va aller. On va les défoncer. Vas-y, viens, on y va. Vas-y, viens, on y va. Vas-y, habille-toi, habille-toi. Habille-toi, habille-toi, on y va. On y va. On y va. Mais je sais pas où ils sont. On y va. On y va. Habille-toi, on y va. Habille-toi, on y va. Habille-toi, on y va. On va les défoncer. Je change de plateau temporel pour explorer l'expression défoncer. Deux variations de défoncer me sont apparues dans le bus 402 qui va de Grigny-Centre à la Grande Borne, puis se dirige vers les pyramides. Et l'autre. Allô? Allô? Ouais. T'as reçu mon SMS là? T'as reçu mon SMS là? Quoi? Non, t'as reçu mon SMS là? T'as reçu mon SMS là? Non, mais t'as reçu mon SMS là? Non, après. Après, t'as reçu mon SMS là? Putain, je vais te défoncer. T'as reçu mon SMS là? Ouais, tu viens tout de suite, là. T'as reçu mon SMS, là? Non, pas celui-là, l'autre. Je t'ai appelé après, je t'ai envoyé un SMS. T'as reçu mon SMS, là? Putain, mais je vais te défoncer. Tu viens tout de suite. T'as reçu mon SMS? Non, mais t'as reçu mon SMS? Ok, non, mais... T'as reçu mon SMS? Non, mais... T'as reçu mon SMS? Non, mais... Est-ce que t'as reçu mon SMS, quoi? Arrête. Putain, mais je vais te défoncer. Entracte. Automne 2015, le corps est le territoire. Coup de tige filetée sur un chantier, genou déboîté, coup derrière la tête, 10 points de suture, arcade sourcilière droite ouverte, pas de point de suture, arcade sourcilière gauche ouverte, 5 points de suture, arcade sourcilière droite ouverte, sensation d'un fil qui passe dans le crâne. Lèvres ouvertes, pas de point de suture. Morsure de chien, 2 dessins symétriques sur le mollet. Pied cassé de Philippe, c'est comme si on avait tous les deux le pied cassé. C'est comme dans W de Georges Perec, on se souvient des blessures des autres. On se souvient des blessures des autres et on s'en souvient comme de ses blessures. Mon père le masse. Ça va aller. Mon père me masse. Non, ça va aller. Non, non, ça va aller. Non, non, c'est fracturé là, non? Non, non, c'est fracturé là. Non, Non, c'est fracturé. Non, ça va aller là. Ça va aller là. Non, non. Il faut aller à l'hôpital là. Non. Pas de tata dans la famille. Quoi ? Pas de tata dans la famille. L'eau chaude, du sel, une bassine. Il n'y a plus d'électricité. On fait chauffer de l'eau sur le gaz. Le gaz, le gaz. Non. On se met devant le gaz. Non. Avant de partir à l'école, on se met devant le gaz. En rentrant de l'école, pas de tata dans la famille. Non. Du sel, de l'eau chaude. Une main dans la bouche, une main ouverte par une mine en Indochine. La main de mon père. Pas de tata dans la famille, non. Conduit. Conduit la nuit. Pour la fièvre de la France, vive, vive, vive. Conduit et disparaît dans la nuit. Que sont mes amis devenus ? Mon père Soult, un soir, nous demande de débarrasser la table en viette. Prenez les assiettes en viette. Prenez les fourchettes en viette. Ça va aller, non ? Les viettes rigolent la nuit. Même lorsqu'on dort, eux ne dorment pas. On a mis des haut-parleurs dans les arbres, de la musique pour qu'ils ne dorment pas. Ça va aller, non ? Ça va aller, non ? Prenez les couteaux en viette. De la musique pour qu'ils ne dorment pas, mais c'est nous qui ne dormons pas. C'est nous. Prenez les couteaux en viette, en viette. Pouce gauche largement ouvert avec un couteau rouge. Je pense à une tomate. Comment on dit tomate en viette ? Ça va aller, non. Ça va aller, non. Il faut aller à l'hôpital. Tu devrais surveiller tes fréquentations, a dit ma mère. A dit ma mère. La cicatrice de la main de mon père qui masse Philippe, qui masse en viette, qui ne dort pas, qui se réveille la nuit, qui sort de son corps, qui s'écroule et dévale les escaliers sur la tête, le dos, les côtes. Tu devrais faire une radio pour voir. Ça va aller, ça va aller, non. Ça va aller, non. Pas de tata dans la famille qui ouvre la porte à un représentant. Qui ouvre la porte à un représentant de commerce habillé en fourrure de lapin. Qui le regarde comme un viet. Mais c'est un Allemand. Il lui dit, vous ressemblez à Marius Trésor, vous savez ? Vous savez que vous ressemblez à Marius Trésor ? On dirait presque que ça va aller, non ? Ça va aller, non. Oui, ça va aller, les autres sont en réserve. Jean Amadou Tigana qui s'échauffe, Gérard Janvion qui s'échauffe, Jacques Zimaco qui s'échauffe dans la nuit. Évitez les mines, les gars, évitez les mines des Viettes. Le représentant s'appelle Joseph, c'est Joseph Beuys, le représentant, qui le masse, qui lui applique une compresse avec des feuilles de troène arrachées dans l'allée d'un pavillon de banlieue. C'est le troène des Tahibs. Ils sont ok les Taïbs. On a tous peur de l'ayatollah Khomeini, ils disent. Ils sont ok les Taïbs. Pour le Troène, c'est bon, servez-vous, pas de soucis, pas de soucis entre nous. On va en vacances en Israël, on peut vous rapporter quelque chose, des pâtes de fruits, quelque chose, c'est bon, merci, c'est bon. Les feuilles de Troène, c'est déjà beaucoup, c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup, c'est bien d'être solidaire ensemble, c'est bien d'être solidaire ensemble, mais j'ai entendu quelqu'un parler allemand, excusez-moi, j'ai entendu quelqu'un parler allemand chez vous. Les gens parlent allemand chez vous ? Non. Les gens parlent allemand chez vous ? Non, non, non. J'ai cru, vous savez, j'ai cru, vous savez. Non, non. Quelqu'un parle allemand chez vous ? Non, Viet. Quoi ? Viet. On parle Viet. On parle Viet et créole. Pour l'instant, ce chapitre ne contient rien à part une phrase. De Vaquet au Piquet. L'année 1987 est manquante. Une brève histoire des grottes et des barbares. Alors, selon la version la plus fréquemment racontée, la grotte de Lascaux a été découverte en 1940 par un certain Marcel Ravida, qui était alors assez jeune, et qui l'a découvert lors d'une promenade sur la commune de Montignac, en Dordogne. Avec ses camarades, alors leur nom c'est Jean Clausel, Maurice Kerouat et Louis Perrier. Donc on est en 1940 et c'est la guerre. Et Marcel Ravida, lui, chasse le lapin avec son chien. Le chien s'appelle Robot, ce qui fait de lui une classe Golgothe. Donc Robot poursuit un lapin qui se réfugie dans un trou à l'endroit d'un arbre déraciné dans une cavité qui fait à peu près 20 cm. Et donc Marcel Ravida va tenter de faire sortir le lapin en jetant des cailloux. Et il se rend compte que la cavité est beaucoup plus grande qu'il ne l'imaginait. Et il décide de revenir les jours suivants, équipé. Alors il faut voir, c'est quelqu'un qui est très jeune, hein, ils ont 16-17 ans, équipé d'un couteau et d'une lampe à l'huile. Ils vont creuser au fil des jours, tous les quatre, une cavité plus grande, puis commencer à découvrir donc, le contenu de la grotte. À force de revenir chez eux chaque soir couverts de poussière, ils finissent par créer des soupçons chez leurs parents qui les interrogent et ils sont forcés de révéler en fait leur découverte. Et comme Alexis en parlait il y a quelques jours sur les épaves, de la même manière, on ne découvre pas des grottes, mais donc on les invente. Et donc les quatre, ils inventent la grotte de Lascaux. Elle va être donc visitée après par des spécialistes et elle va être analysée. Et ce qui est notable, c'est que la grotte va être rapidement considérée comme extrêmement importante et précieuse, va d'abord être étudiée par des scientifiques, puis visitée de manière touristique, jusqu'à ce que l'augmentation dans l'atmosphère du dioxyde de carbone liée justement aux visites répétées des êtres humains oblige à la fermeture de la grotte, qui sera fermée en 1963 par le ministre de la Culture de l'époque, qui est André Malraux. La grotte donc est fermée pour contrecarrer ou tenter de la contrecarrer ce qu'on appelle la maladie blanche. En 1983, donc quasiment 20 ans plus tard, ouvre Lascaux 2, qui est un fac-similé de la grotte de Lascaux, qu'on visite aujourd'hui. Lorsqu'on dit « je vais visiter la grotte de Lascaux en Dordogne », on visite en réalité la copie de la grotte de Lascaux à l'identique. Afin de préserver la première qui donc a été enterrée et qui redevient donc un événement invisible. Le 5 mai 1988 au matin, sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, des forces spéciales françaises et le JIGN prennent d'assaut une grotte où sont détenus une vingtaine de gendarmes par des indépendantistes kanaks. Au terme de combats très violents, 19 ravisseurs et 2 militaires sont tués. C'est l'épilogue d'une crise qui va durer pendant quasiment toute la campagne électorale de 1988, où François Mitterrand, qui avait dominé le président cybernétique Giscard d'Estaing, est opposé cette fois-ci à Jacques Chirac. Pendant de très longues semaines, comme on ne peut pas documenter les événements de la grotte d'Ouvéa, on va publier et diffuser à la télévision la même image unique de l'entrée de la grotte. C'est la première fois que les médias sont en situation de ne pas pouvoir documenter visuellement un événement qui est pour le coup très important et vont nous laisser devant cette entrée de grotte relativement mystérieuse, à l'identique qu'on est laissé à l'extérieur de la grotte de Lascaux. Jacques Chirac aura ces mots pour parler du drame d'Ouvéa. Ouvrez les guillemets, la barbarie de ces hommes, si l'on peut les appeler ainsi. Il est en campagne électorale, il ne sera pas élu président cette fois-ci. En 1988, me traverse pour la première fois le projet de créer Ouvéa 2. Un fac-similé de la grotte des indépendantistes kanaks. Projet à ce jour encore à réaliser. Ça va aller là? Non. Ça va aller là? Non, non, non. Ça va aller là? Oui, non. Oui, ça va aller là? Oui, oui. Oui. Tu penses? Ça va aller là? Non, 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 non. Non, ça va aller là, non, non. Ça va aller là, non. 1989. Merci. Alors, juste pour vous dire un mot, pour vous dire que ce texte est écrit dans le désordre et est un texte qui s'écrit par les trous et les milieux et qui cherche à voir ce qu'on peut ajouter entre ce que chaque épisode raconte. Donc, ce n'est pas un texte qui est écrit de manière linéaire, mais qui est écrit plutôt de manière un peu circulaire. Évidemment, l'année 89, qui est l'année de la chute du mur de Berlin, est une année qui, quelque part, coupe en deux l'histoire que je souhaitais raconter. Donc, voilà, il y a ce gros morceau-là. Qui est l'année la plus longue de l'histoire, que je raconterai une prochaine fois. Voilà, merci à vous.